Bonjour à vous tous, bienvenue. On fête un anniversaire aujourd'hui, les 50 ans du plus gros marché européen de produits frais. Je parle de Rungis. Ensuite, nous visitons une manufacture de bijoux qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Et enfin, on découvre la passion d'un fils de cheminot en Ardèche. Une heure en France avec, comme toujours, vos initiatives et notre patrimoine jusqu'à 14h. Mais commençons maintenant par l'actu de ce vendredi 1er mars. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Letournier, bonjour à tous.
Qu'évoque pour vous ce 1er mars ?
Pour certains, les cigarettes qui augmentent, pour d'autres, le combat contre l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Avec un nouveau dispositif, on va regarder de près.
Le débat est relancé sur les sorts des djihadistes français en Irak et en Syrie, et surtout celui de leurs femmes et enfants.
Des familles ont déposé plainte à l'ONU pour forcer la France à rapatrier les enfants.
On va passer par l'Algérie ce midi avec ce vendredi de contestation contre un nouveau mandat de Bouteflika.
Le président, toujours soigné en Suisse, pourrait se déclarer officiellement dans 2 ou 3 jours.
On va goûter, mais juste goûter, une boisson anisée qui vient du nord-ouest de la France.
Vous avez dit du nord-ouest.
Eh oui, c'est nouveau et surprenant. Et dans la foulée, eh bien, on se complimentera en cette journée du compliment.
Ouais, il n'y a pas de mal à se faire du bien.
On est rentré du Salon de l'Agriculture. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France. Frédéric Letournier, Denis Farou sur France Bleu.
Il y aura encore du monde sur la route ce week-end avec un dernier chassé-croisé. La zone A de Bordeaux, Dijon, Lyon ou Poitiers est sur le retour. Et c'est la deuxième semaine des Parisiens et Toulousains.
Ce sera orange en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à dimanche. Mais il n'y a pas de rouge ou de noir annoncé. En Rhône-Alpes, il est préférable d'éviter de circuler sur l'autoroute A43 entre Lyon et Chambéry entre 8h et 18h demain. Il faudrait donc se lever tôt ou partir tard quand c'est possible.
La 8e hausse du prix du tabac en moins de 2 ans est arrivée ce matin. Le paquet de Marlboro est passé de 8,20 € à 8,80 €.
La prochaine hausse, ce sera en novembre et l'idée est toujours d'amener le paquet à 10 € en 2020. La hausse des prix a un effet sur les ventes, mais pas encore partout. Pas chez ce buraliste à Marseille, par exemple, Tony Cellier.
Ouais, malgré le prix qui n'arrête pas d'augmenter, ce débit de tabac de la rue de la République ne désemplit pas.
Bonjour, un paquet de Philip Morris bleu s'il vous plaît.
8 € le paquet, Alix fume depuis 10 ans. Elle pose son billet sans sourciller, même si elle a vu les tarifs s'envoler depuis sa toute première cigarette.
Ouais, je ne dois pas vous dire exactement combien, mais je me souviens que je donnais mon billet de 5 et qu'on me rendait de la monnaie. Aujourd'hui c'est 8, demain c'est 8,50. Bientôt ça sera 10, ça finira bien par s'arrêter de fumer à un moment donné, parce qu'on n'aura plus les moyens donc... On s'arrêtera. Le problème, c'est que je fais un métier assez stressant pour l'instant et que j'arrive pas, par rapport à ça, à m'arrêter parce que j'ai besoin de temps en temps de souffler. Mon échappatoire, c'est d'aller fumer une cigarette, quoi.
Le tabac, donc, plus fort que sa volonté jusqu'ici. Mais pour lutter contre les hausses de prix, justement, certains, comme Sofiane, n'hésitent pas à les dénicher à la sauvette.
Ça pousse les gens à acheter des fausses cigarettes, quoi. On va où ça se vend, on l'achète à 5 € le paquet au lieu de 50. Je veux dire, il y a plus de goudron que de nicotine.
Et ça vous dérange pas ?
Non, vraiment pas.
Pour Pierrot, c'est encore plus clair. Bientôt 50 ans qu'il fume, il n'y a que la maladie qui pourrait l'arrêter.
Un plaisir, c'est un plaisir. Tant que ça me plaît, je continuerai. Tant que je suis pas malade.
À 10 €, vous l'achèterez encore ?
Je l'achèterai encore, il n'y a pas de souci. Parce que je ne peux pas m'en passer.
Ouais, le problème, c'est que quand on est malade, c'est souvent trop tard. Tony Cellier à Marseille.
Le tabac est responsable de 75 000 décès prématurés chaque année en France. Ce qui est sûr, c'est qu'à terme, les buralistes devront diversifier leur commerce. C'est déjà le cas pour certains qui font office d'agence postale ou bancaire.
Et s'ils vendaient des billets de train ? La SNCF a lancé l'idée. Ce serait un revenu supplémentaire pour les buralistes. À l'heure où les horaires d'ouverture des gares ne vont pas vraiment dans le bon sens. Acheter son billet ou un abonnement au bureau de tabac, qu'en pensez-vous ? À Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne, à mi-chemin entre Montauban et Toulouse.
Bon, je pense que ça peut être une bonne chose pour la proximité. Pas obligé de se déplacer dans une gare. Puis voilà, il y a peut-être des heures d'ouverture plus larges aussi, plus disponibles pour les gens d'un certain âge, c'est peut-être bien.
Les distributeurs de billets au niveau de la SNCF sont souvent en panne. Donc on n'arrive jamais, on prend des PV dans les trains, donc pourquoi pas pouvoir avoir un accès directement au buraliste pour ces billets.
Oh, très bien, tout bien. C'est un service de plus rendu à la population, alors que la gare de Grisolles est fermée. Voilà. Et puis se retrouver devant un guichet à essayer de récupérer un billet de train, c'est pas évident pour tout le monde. Hein.
Une fois, j'ai voulu prendre le ticket à Castelnau des Stratofonds à 6h30. La machine ne marchait pas et la contrôleuse a voulu me mettre une amende dans le train parce que j'avais pas le ticket. Pour un petit village comme nous, c'est pas mal le buraliste.
Chaque veille de week-end, désormais, les regards se tournent vers une ville qui est le temps d'un samedi consacré manifestation régionale de gilets jaunes. On se rappelle de Montélimar ou de La Roche-sur-Yon. Voici Bar-le-Duc dans la Meuse qui a avancé son jour de marché par précaution et la préfecture demande aux commerçants de se préparer.
Le grand débat national fait étape à Bordeaux aujourd'hui avec notamment un échange entre Emmanuel Macron et Alain Juppé qui présente sa démission de maire au préfet cet après-midi avant de rejoindre le Conseil constitutionnel.
Emmanuel Macron a rencontré des femmes hier en Gironde à la veille de la mise en place ce 1er mars du nouveau dispositif censé faire disparaître les inégalités salariales.
Les entreprises de plus de 1000 salariés doivent publier sur leur site internet les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et en cas de mauvais résultat, elles auront 3 ans pour rectifier le tir, sous peine d'être sanctionnées par l'inspection du travail.
Les résultats du secteur bancaire risquent d'être particulièrement scrutés, Sarah Lemoine.
Laetitia Bresson est déléguée syndicale. Elle travaille dans un grand réseau bancaire qui compte plus de 30 000 salariés. Les femmes y sont majoritaires. Elles représentent 60% de l'effectif. Et pourtant, elles sont moins bien payées que leurs collègues hommes. Une discrimination qui, selon elles, commence dès l'embauche.
Une femme va être rémunérée 25 000 euros annuels, alors qu'un homme sur ce même métier va percevoir, lui, 29 000 euros dès l'embauche.
Quand Laetitia Bresson demande des explications à sa direction, voilà ce qu'on lui répond.
La femme est moins exigeante, demande moins au moment de l'entretien. Alors, est-ce que vu que l'homme est la perle rare, c'est celui qu'on va payer plus cher?
Et quand on évoque les congés maternité, la déléguée syndicale soupire.
Elle va partir en congé, donc on va pas l'augmenter. Où elle revient seulement de congé, donc on ne va pas l'augmenter, il faut qu'elle fasse ses preuves.
Avec l'entrée en vigueur aujourd'hui de l'index de l'égalité salariale, la déléguée syndicale espère que les choses vont enfin changer dans le secteur bancaire.
Ce qu'on espère surtout, c'est que ça va faire prendre conscience aux femmes qu'elles doivent oser, parce que dès le moment où une femme ose, on arrive à lui trouver 3 000 euros, 5 000 euros d'augmentation, parce qu'elle a fait valoir ses compétences.
Avec l'index, les entreprises qui affichent un mauvais score auront 3 ans pour rectifier le tir, sous peine d'être sanctionnées financièrement par l'inspection du travail.
Sarah Lemoine.
Pour l'instant, seules les entreprises de plus de 1000 salariés sont concernées. En septembre prochain seront concernées les plus de 250 salariés en 2020, toutes celles de plus de 50.
L'Algérie devrait vivre une grosse journée de mobilisation ce vendredi, toujours pour dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika.
Qui est toujours soigné à Genève, qui n'a pas encore déposé sa candidature. Ce journaliste joint à Alger par Frédéric Carbone ressent une population très déterminée.
On peut s'attendre à des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de marchands dans toute l'Algérie, comme c'était le 22 février. Le 22 février, ça a étonné beaucoup de monde, y compris en France. Puis on sent, il y a un tel colère dans la ville algérienne, on le constate dans nos reportages, dans nos enquêtes. Durant la semaine, il y a eu beaucoup d'actes de protestation, des étudiants à l'université, des avocats qui ont fait un sitting, des journalistes, etc. Quand on parle avec les manifestants, on sent qu'ils sont déterminés d'aller jusqu'au bout.
Une dizaine de journalistes ont été interpellés hier en Algérie alors qu'ils participaient à un rassemblement contre la censure. Ils ont été libérés quelques heures plus tard.
C'est la question qui agite depuis la fin annoncée de Daesh en Syrie. Quel avenir pour les Français qui ont combattu avec les terroristes et quel avenir pour leurs femmes et enfants?
Des familles, des grands-parents, des oncles, des tantes ont déposé plainte auprès du Comité des droits des enfants des Nations Unies. Ils espèrent pousser la France à prendre ses responsabilités, disent-ils. Marie Dosé est l'avocate de plusieurs femmes détenues en Syrie. Elle réclame leur retour ainsi que celui des enfants.
Nous pensons qu'il y a, en tout cas à ce jour, plus de 100 enfants français détenus arbitrairement dans des camps au Kurdistan syrien. 70% des enfants ont moins de 6 ans actuellement. C'est désormais catastrophique. Il y a 29 enfants qui sont décédés, pas des enfants français, hein, mais 29 enfants qui sont décédés depuis le 1er novembre 2018 à cause du froid syrien. Lorsque des familles ont fui le dernier réduit d'État islamique, le camp Al-Hoge est désormais passé de 10 000 à 33 000 détenus femmes et enfants en moins de 2 mois. Les enfants désormais manquent d'eau, de nourriture, de vivre et puis surtout manque de soins.
La France n'a pas prévu de les ramener, a dit le ministre de l'Intérieur ce matin sur France 2.
Christophe Castaner explique que les parents ont fait le choix de partir faire la guerre en Syrie.
Si les enfants ont des parents, c'est pas l'État qui doit décider. C'est d'abord les parents qui doivent décider. Et aujourd'hui, les parents sont partis. Ils vivent, ils ont fait le choix de vivre et d'aller mener une guerre en Syrie en particulier. Et ils restent
donc
sur place avec leurs
enfants. Donc on
ne
s'occupe pas des enfants qui sont là-bas, même s'ils sont mineurs, même s'ils sont français.
Et ils sont avec leurs parents. Et donc de toute façon, même d'un point de vue juridique, nous n'aurions pas le droit d'aller sur place, de prendre les enfants et de les rapatrier pour les protéger. Ce serait une violation totale du droit et du droit de l'enfant aussi.
On a découvert ce sondage Odoxa où 67% des Français souhaitent que les enfants de djihadistes français restent en Irak et en Syrie. 1000 Français ont été interrogés en début de semaine.
13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera un compliment, celui qui fait plaisir ou pas, on verra. C'est la journée du compliment.
Vous parlez bien, je trouve.
D'accord. On fera aussi un aller simple New York-Paris avec un artiste qui a décidé de rentrer en France. Mais avant, c'est notre tournée avec une boisson anisée que vous ne connaissez pas encore.
Si je vous dis pastis, vous pensez à quoi, Frédéric?
À Marseille, un comptoir de bistrot ou encore à une partie de pétanque, non?
Évidemment, mais pas seulement. Un Breton vient de créer le brastis. Le brastis, c'est une contraction de braise et pastis. Un pastis breton, Joanne Moison.
Oui, on est un peu fous, nous, les Bretons. Comme ce Laurent Jouffe, quinquagénaire à la tête d'une petite entreprise familiale installée à Dinan, spécialisée dans les spiritueux, c'est lui qui a osé, oui, l'inimaginable, revisiter la boisson anisée de Marseille. Même pas peur.
C'est une interprétation par un Breton d'un breuvage qui vient effectivement pas d'ici, qui vient effectivement du Sud. On a voulu donner quelque chose qui avait un peu de puissance tout en étant fin et délicat, un produit qui ressemble à notre région et au caractère fort des Bretons.
Bon, alors un pastis fort comme un Breton contenu dans une bouteille en forme de phare breton, on en pense quoi dans le Sud?
Ils s'y connaissent en boisson, hein, les Bretons. Peut-être pas au niveau du pastis, mais bon, s'ils s'y mettent, ils vont être redoutables.
Jamais vous remplacerez le 51, le Casa, le Ricard. Après, on veut bien goûter.
Allez attaquer le Ricard ou le 51. Ils sont couillus quand même.
Qui garde le chouchène et laissez-nous le Ricard.
Mais non, on partage, allez. La maison Jouffe a lancé son brastis il y a un mois. 3000 bouteilles vendues, et pas qu'en Bretagne. 10 000 autres seront produites d'ici fin mars pour faire face à la demande.
Et à consommer avec modération, bien sûr, en Bretagne ou à Marseille et puis partout ailleurs.
C'est vraiment agréable de vous entendre, Frédéric. Le brastis avec Joanne Moison.
D'accord, je comprends. C'est la journée du compliment, c'est ça. Hein. Alors, creusez-vous les méninges pour féliciter quelqu'un de votre entourage d'un mérite quelconque.
Et j'ose vous complimenter sur votre définition du compliment, Frédéric.
Alors moi, j'oserais vous dire que vous êtes toujours à l'heure. À 13h, comme ça, voilà, vous êtes vraiment
ponctuel. Allez, poursuivez.
Trop facile de faire des compliments, c'est dit Sylvie Charbonnier. Qui s'est mis en tête de vous faire complimenter quelqu'un que vous n'aimez pas?
Si c'est vraiment quelqu'un que je peux pas encadrer, je dirais rien, je pense.
La personne que je peux pas encadrer, je lui dirais qu'elle est bien coiffée. Très focus, ça serait très premier degré. Très bien coiffée aujourd'hui.
Je connais personne que je peux pas encaisser, le pire.
Attendez, ça va venir. Je lui dis bonjour et je lui fais un grand sourire. Si c'est pour la journée du compliment, je fais ça. Je ne peux pas être méchante.
Non, je cherche qui je peux pas encaisser.
Tu m'apprends beaucoup de choses sur moi-même. Parce que les gens qu'on n'encadre pas, ça vient peut-être de nous aussi.
Mais vraiment, pas encaisser, non. Pas encaisser, je n'en connais pas.
Comme je suis assez franche, je lui dirais, on n'a pas beaucoup d'atomes crochus, mais je souhaite plein de bonnes choses dans la vie. Pourquoi gâcher la journée du compliment?
Eh bien non, compliment à vous tous. Sylvie Charbonnier a essayé de vous pervertir, mais vous êtes foncièrement gentil.
Allez, la suite de la Coupe de France se précise.
En demi-finale, le PSG rencontrera Nantes ou le club de Vitré qui joue en 4e division pendant que Lyon recevra Rennes.
Et le match du vendredi soir de Ligue 1.
Vous suivez bien, mais pas de match exceptionnellement.
Non.
La journée débute demain et se poursuit dimanche.
On avait un peu perdu de vue Charlie Couture qui vide sa peinture depuis 15 ans aux États-Unis. À 63 ans, il prend l'avion du retour. Il explique le déclic aux Parisiens aujourd'hui en France. Un jour, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je fous là, au pays de Donald Trump ?»
Il expose en ce moment au musée Paul Valéry à 7. Il revient aussi avec un album dans ses bagages, même pas sommeil. Et sur la pochette, il y a un magnifique JPEG barbu aux ailes déployées. C'est comme un vautour, ça mange des carcasses. En écho à l'avion sans ailes de 1981.
Comme un avion sans ailes. J'ai chanté toute la nuit. J'ai chanté pour celle qui m'a pas cru. La nuit, et même si je ne peux pas m'envoler, j'irai jusqu'à.
Et avant d'aller à Rungis, un grand bonjour à ce couple du Cotentin qui nous écoute tous les jours et qui nous a rendu visite hier au Salon de l'Agriculture. Et puis merci aussi à Monique pour sa belle carte de Franche-Comté de Ornans, le pays de Gustave Courbet.
Et merci à Christelle, la factrice du Finistère, qui nous envoie une carte postale, un menhir magnifique après avoir écouté la tournée du facteur sur l'île Marguerite au large de Cannes la semaine dernière, vous vous rappelez ?
Ah oui, on est vraiment ravis de recevoir du courrier, continuez comme ça.
Voilà la météo et le message grippe.